C'est moi aussi qui vous remercie d'être là, de pouvoir partager avec vous ce beau thème, ce thème de la présence. Parce que, bon, pour moi, ce n'est pas un thème de réflexion, c'est le thème de toute une vie effectivement placée sous le signe de la présence. Et d'ailleurs, ça va être le fil conducteur hein, de ce week-end. Devenir et demeurer des êtres de présence. Hein, devenir et demeurer au sens joannique du terme, c'est-à-dire, vous l'entendez déjà, hein, devenir, demeurer, ce sont déjà des mots qui nous inscrivent dans une durée. On se place tranquillement, doucement, mais on se place. Et des êtres de présence, c'est presque une tautologie. Parce que finalement, l'être, c'est quoi? C'est de la présence. Voilà, et vice-versa. Mais malheureusement, cette tautologie est bien nécessaire parce que nous sommes rarement dans la présence, parce qu'on est très peu dans l'être. Donc on va essayer de faire en sorte qu'effectivement, je veux dire, cette orientation qu'on se donne devienne quelque chose de plus naturel, d'être vraiment tout le temps des êtres et donc tout le temps des présences. Elle est ce thème va être, comme ça a été dit là, divisé en deux questions qu'on va développer. Donc moi je redis la première hein, sur laquelle on va réfléchir ensemble. Hein. Comment retrouver jour après jour, hein, chaque mot a son importance. Le chemin de l'intériorité dans la confusion et l'agitation du monde qui nous assaille en permanence. La fin est terrible. Voilà, c'est cette question qui nous est proposée. Et certainement, vous le savez, dans le domaine de la spiritualité, la meilleure attitude, c'est de ne surtout pas répondre à ce genre de questions. En tout cas, d'y répondre frontalement, trop directement. Parce qu'il s'agit davantage de laisser résonner ces questions, les laisser résonner longuement, pour qu'elles viennent toucher en nous des points névralgiques et, je dirais, les ressorts même de notre motivation. Parce que je crois que, justement, tout est là et déjà... Déjà, Jean Toller, un disciple de Maître Eckhart, le soulignait, il disait que tout était dans l'intention. Et l'intention, c'est quoi? C'est ce qui nous anime, ce qui nous habite et ce qui nous anime. Donc c'est là, plus que dans les difficultés ou même les résultats qui d'ailleurs ne nous appartiennent pas, c'est là que ça se place, à la racine. Parce que finalement, dans l'intention, on a la racine de l'être, qui est le désir. C'est peut-être ça qu'il faut travailler. Et moins se préoccuper des situations extérieures, même si, en apparence, elles peuvent être très contradictoires ou contrariantes. Donc ce soir, on va laisser un peu tourner, raisonner cette question pour entendre... En tout cas, pour entendre ce qui s'y cache, et surtout en la prenant au sérieux, car c'est une question pour le moins récurrente. Je l'entends très souvent. Vous aussi, vous devez l'entendre très souvent, et même chez certaines personnes, ça devient une question paralysante. On ne peut pas. C'est même pas. Je ne peux pas. Prier, je ne peux pas entrer dans une vie méditative parce que parce que ça bouge trop autour de moi, il y a trop de stress, etc., etc. Et je pense que c'est très souvent, en tout cas aujourd'hui, la question majeure. Et en tout cas, qu'on rencontre tôt ou tard quand on s'engage sur un chemin de spiritualité, en tout cas authentique. Parce que finalement, je veux dire, elle est un peu décalée. Cette question pointe le doigt sur des difficultés sans se rendre compte que les difficultés tiennent plus à la nature du chemin qu'à l'environnement, qu'à, par exemple, une vie professionnelle débordante ou familiale, etc. Mais ça, on ne le voit pas toujours. Donc, on est toujours dans cette question, hein, comment retrouver, comment faire, etc. Et vous l'entendez bien, cette interrogation, elle est tout à fait dans le climat des évangiles. Les disciples sont tout le temps en train de poser des questions. Et il y a d'abord ces questions à Jésus. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il y a aussi ces questions à Jean-Baptiste, qu'on vient voir au bord du Jourdain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu nous dis que c'est vrai, mais comment? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et comment? Il y a aussi la question de Marie à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Voilà, donc on est un peu aussi comme ça, encore aujourd'hui. Hein, je veux dire, comment s'y prendre? Comment faire? Comment prier? Parce que finalement, ce n'est pas simplement pourquoi prier, mais il y a aussi comment. Comment prier? Au milieu de cette cacophonie environnante, au milieu d'un monde qui est parfois tellement aux antipodes qu'on ne sait plus très bien où on en est. Je me souviens, c'était l'année dernière, j'avais programmé, il y avait une session, et c'était très peu de temps après les événements, les fameux événements à Paris qui ont choqué, et les gens étaient complètement perdus. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, mais non, justement, raison de plus aujourd'hui d'être là pour apprendre justement cette véritable assise qui est au fond de chacun de nous. C'est peut-être là, justement, le véritable appui quand tout bouge autour. Et c'est vrai que nous sommes bien démunis, hein, aujourd'hui comme hier, et on peut être aussi comme les disciples à Jésus. Apprends-nous à prier. C'est un peu cette même interrogation. Je dirais, c'est aussi dans cette interrogation une sorte d'aveu d'impuissance. Il faut aussi reconnaître, voilà, comment retrouver jour après jour le chemin de l'intériorité. Mais la question subsidiaire qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir si c'est réellement plus difficile aujourd'hui qu'hier. Alors évidemment, on la connaît trop bien, cette confusion, cette agitation du monde qui nous assaille en permanence, dans le milieu professionnel, ou simplement par le biais des actualités omniprésentes, ou la simple pression d'une sorte de brouhaha environnant, une sorte de bruit de fond perpétuel, qui brouille en quelque sorte les voies d'accès au silence. Mais je ne pense pas qu'il y a deux ou trois siècles, alors que les amplificateurs n'existaient pas, que nous connaissions mieux le silence. Parce que finalement, vous le savez, il y a une autre confusion, une autre agitation qui, elle aussi, nous assaille en permanence et rend si difficile l'accès à un autre silence qui, lui, est peut-être beaucoup plus déterminant, c'est le silence intérieur. Celui du cœur profond, c'est-à-dire l'espace même de notre être. D'ailleurs, que l'on peut entendre palpiter à l'unisson de l'être du monde quand on touche à ce silence intérieur. Dès qu'on entre dans ce silence intérieur, on est immédiatement en harmonie. En harmonie avec l'univers et pas simplement avec soi. Il y a quelque chose qui se passe dans la plus grande immédiateté. Et nous comprenons aussi, à ce niveau de profondeur, de silence intérieur, combien, finalement, je dirais, trop de monde, c'est-à-dire trop d'informations, de savoir, combien trop de monde nous éloigne du cœur du monde. Et trop d'informations nous éloignent du vrai courant. D'où cette nécessité de faire un pas en arrière, de se retirer un petit peu. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de fermer la porte de sa chambre. Vous le savez bien. Je sais, il peut y avoir un vacarme épouvantable dans sa tête. Donc, ce n'est pas si simple, parce que cette confusion, elle est d'abord, avant d'être extérieure, je veux dire, elle est mentale. C'est un peu comme une fourmilière sous la pierre de notre crâne, une ruche de soucis, de tracas, de préoccupations de toutes sortes. Puis aussi, on sourdine les frustrations, les désirs inassouvis. Tout ça, ça fait marcher cette machine intérieure. Et ça devient une ruche bourdonnante qui, en général, donne un miel empoisonné. Donc, vous voyez, à côté de ça, la tondeuse à gazon ou la moto qui va traverser mon temps de méditation, c'est complètement inoffensif. Parce que ça ne touche pas à l'être. Ça passe. C'est un peu comme un bateau à la surface de l'eau, mais ça n'a pas d'incidence. Alors que cette agitation mentale, elle a une incidence. Néanmoins, c'est vrai que les difficultés demeurent, elles, attachées au contexte. Mais moi, je retiens la leçon d'Épictète qui dit qu'il y a d'abord il y a ce qui dépend de moi, il y a ce qui ne dépend pas de moi. Donc moi, je préfère commencer par ce qui dépend de moi. C'est plus immédiat. Et donc, au lieu de faire l'inventaire de tout ce qui, en ce monde, s'oppose à l'expérience intérieure, eh bien, j'essaie de débusquer en moi ce qui la contrarie. Dans des zones intermédiaires entre le cœur profond et puis le monde environnant. Et en fait, ça se passe là. C'est là que souvent ça se brouille et que ça bloque. Car il ne suffit pas d'être loin de tout pour se rapprocher de ce centre que nous cherchons tous et à partir duquel nous voulons vivre et être présents, justement. C'est un centre qui n'a de sens que parce qu'à partir de lui, on est réellement des êtres de présence. Je reviens toujours à ce thème-là parce que notre but, ce n'est pas la méditation en soi. Je le souhaite. Voilà, notre but, c'est quand même, voilà, c'est une fois ce centre touché, je veux dire, on s'ouvre, on est différemment. Voilà, le danger d'une pratique, quelle qu'elle soit, serait de nous faire oublier cette profondeur de l'être et que la pratique n'est qu'un chemin parmi d'autres. Voilà, mais qu'il y ait un horizon. Et cet horizon, c'est la présence. La présence qui devient un reflet de la présence avec un P majuscule. Donc on peut se rassurer aujourd'hui, parce que de tout temps, il a été difficile de mettre en œuvre une vie contemplative. Une vie contemplative, c'est quoi? C'est une vie qui est pour centre, qui se donne pour centre la prière, la méditation. Autrement dit, c'est l'intériorité dans sa relation à l'invisible. C'est-à-dire ce qui nous habite, mais ce qu'on touche le moins. Saint Augustin le disait, ce qui est plus intime que nous ne le sommes à nous-mêmes. Mais ce qui est donc le moins saisissable. Et c'est ça le plus important. Ce qui se voit le moins, ce qui compte le moins aux yeux du monde, c'est le plus important, parce que c'est à partir de là que nous sommes réellement des personnes. Des personnes au sens où Dieu l'a voulu. C'est-à-dire des images de cette présence en plénitude. Nous sommes, vous le savez, plus naturellement portés vers le faire que vers l'être, plus naturellement portés vers l'extérieur que vers l'intérieur. Il suffit de fermer les yeux pour s'en rendre compte. Vous fermez les yeux, vous êtes envahi par tout ce que vous avez emmagasiné dans la journée. Voilà, donc c'est simplement un penchant naturel, mais qui n'est pas une fatalité non plus. Parce que prendre conscience de cet être que nous sommes, que nous portons, représente une sorte de degré réflexif supérieur. Et donc, un commencement quand même d'effort. On y verra, plus tard on va aborder l'abandon, mais ce n'est pas contradictoire. Vous voyez, on sera toujours en tension entre, de toute façon, une sorte d'effort, étant donné nos penchants naturels, mais en même temps, aussi une capacité de basculer, de s'abandonner quand, justement, le mouvement de l'être, le mouvement de la présence survient. On est toujours entre les deux. Il faut surtout, vous le savez, il faut parfois un effort pour s'arracher à des préoccupations, pour satisfaire le temps de méditation, de prière qu'on sait, qu'on se donne quotidiennement. Il faut un effort, il y a une part de volonté, mais après, une fois qu'on y est, c'est terminé. L'effort n'a plus sa place. Vous voyez, donc on est toujours un peu entre ces deux eaux. Ça, c'est un savant dosage. Parce que si on reste dans l'effort pendant le temps de méditation, ça ne sert à rien. Mais en même temps, si on est tout le temps dans le lâcher-prise, on n'ira jamais au temps de méditation. Il y aura toujours quelque chose d'autre. Voilà. Oui, c'est une question d'équilibre, de souplesse, puis aussi d'intuition. On apprend à se connaître. On sait là où ça coince, où on est un peu. Il y a une paresse. Il faut reconnaître. Hein, je veux dire, la paresse spirituelle, c'est peut-être la plus grande difficulté. Oui, il y a une forme de paresse. Donc c'est vrai qu'il y a cet effort. Alors il y a cet effort dans notre vie quotidienne pour garder ce temps de méditation qu'on se donne. Mais il y a aussi une forme d'effort à l'égard d'un monde qui veut nous dire mais laisse tomber, c'est pas ça qui compte. Puis même on peut vous dire même avec des bons sentiments, le service c'est plus important. Il y a des choses plus importantes, etc. etc. Donc voilà, il y a toujours une petite voix pour nous éloigner de ça. Et c'est vrai que notre société bien matérialiste, qui elle, justement, ne jure que par le résultat, l'immédiateté, alors que la méditation, je sais pas, ça fait son œuvre, mais sur des temps sur une vie. Donc cette société très mécaniste, bruyante, remuante, elle ne peut pas comprendre ça. Donc nous, on est tout le temps aussi en porte-à-faux. Mais là aussi, il faut l'accepter parce qu'une vie contemplative s'imposera toujours comme une forme de rupture, ou en tout cas se placera sous le signe de la rupture. Alors, en tout, si ce n'est pas une rupture radicale, c'est au moins un décalage nécessaire, un pas de côté, plus ou moins grand, avec évidemment le sentiment de solitude, parfois, sentiment aussi de vulnérabilité, voire de marginalisation. Il faut le savoir et accepter ce prix-là. Que l'on songe par exemple aux premiers pères du désert qui ont été évoqués là tout à l'heure, hein, cette soif de dépouillement et d'authenticité hein, qui correspondait à cette soif du désert, du silence, comme unique voie pour retrouver une attitude plus juste, eh bien, elle survient précisément en réaction à un christianisme s'enfonçant tout doucement dans la compromission à partir du moment où il devient une religion établie. Donc il y a là aussi une sorte de rupture. On réagit pour un retour aux sources. Donc il y a une sorte de volonté, toujours une volonté farouche de revenir aux sources, une soif de vérité en face d'une sorte d'embourgeoisement de la foi. Mais il peut y avoir aussi, aujourd'hui, même au-delà de la foi, une sorte de réaction, je veux dire, à une perte de la dimension tout simplement humaine. Et ces ruptures nécessaires, on va les retrouver tout au long de l'histoire du christianisme. Et j'ajouterai même que ce sont ces ruptures qui assurent sa jeunesse, comme elles assurent d'ailleurs la nôtre. Parce que nous l'oublions pas, dans notre pratique, comme dans notre vie chrétienne, on vieillit, on s'essouffle uniquement parce qu'on s'éloigne de la source. Ce n'est pas le temps, c'est en fait, à force, la routine qui nous fait nous éloigner un peu plus de cette source, de cette fraîcheur virginale, fraîcheur vivifiante. Parce qu'il n'est pas plus difficile aujourd'hui, à mon sens, de mettre le cœur, hein, le cœur au centre de sa vie, que cela pouvait l'être au XIVe siècle pour ce mouvement que vous connaissez peut-être, le mouvement laïque, les Amis de Dieu, dans le sillage là, de la mystique réno-flamande, qui était, les Amis de Dieu, qui étaient composés pratiquement que de laïcs, ou alors au XVIIe siècle, en France, quand les solitaires de Port-Royal quittaient les vanités de Paris pour vivre une vie de raison et de silence, à l'ombre d'une existence sans éclat. Donc il y a toujours eu des ruptures à accepter, des ruptures aussi à vivre positivement. Ce n'est pas non plus dans la polémique, ce n'est pas non plus dans une forme de révolte, c'est simplement des ruptures pour aussi élargir son horizon. Et puis aussi, pour donner une parole. Parce que rompre vers quelque chose, dire non, moi, cette vie, ça ne me convient pas, c'est aussi une parole. C'est aussi une forme de résistance. Et cette tension dont je vous ai parlé, est parfaitement exprimée par cette expression joannique que vous connaissez, hein, « dans le monde ». Et pas du monde. Alors, autrement dit, pour nous, ça veut dire accepter le monde. Alors, j'entends, attention, le monde des hommes, le monde de l'histoire, le monde du bruit, de la confusion et de l'agitation. En tout cas, l'accepter tel qu'il est, et tel qu'il a toujours été, mais précisément pour lui apporter des fruits que lui seul ne peut pas produire et que nous, nous développons avec amour par notre choix un peu plus radical, c'est-à-dire demeurer, devenir et demeurer des êtres de présence plutôt que des individus soumis aux lois d'une économie de plus en plus tentaculaire. Parce que c'est là notre but, c'est là l'enjeu de nos choix de vie, et je pourrais même dire devenir et demeurer des vivants. Des êtres de présence, c'est ça, des vivants. Non pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi dans et pour l'amour de la vie. Pour que sa flamme continue à s'élever bien droite et bien haute, pour clamer aussi ce qu'est être vivant, ce qu'est aussi porter cette vie. Aujourd'hui, je pense que le premier message que le monde pourrait entendre, c'est bien celui-ci. Avant même de parler de foi, leur dire voilà, qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que c'est que la vie qui a sa propre profondeur, son propre mystère, et qu'on ne peut pas vivre sans cette intériorité. Donc tout simplement opposé à la frénésie de ce monde, au tourbillon vide de contenu, aussi à la perte de sens, à ce que nous sommes capables de tirer de notre propre fond. La lumière d'une présence, la lumière d'un plus grand que soi, un plus grand que soi mais qui nous habite, qui nous anime. C'est tous les trésors de l'invisible. Mais sans cet invisible, que serions-nous? Faire de la résistance n'est pas nécessairement entrer dans un esprit de croisade. On ne fait pas ça parce qu'on a une idée à défendre, à promouvoir. Ce n'est pas non plus pour céder à des tentations de victoire, mais simplement parce que la contemplation, eh bien, c'est ce qui nous fait vivre. Et c'est ça qui importe. Et c'est ça aussi peut-être que les gens, aujourd'hui, nos contemporains, peuvent entendre. Enfin, moi, je l'ai expérimenté souvent. Je veux dire, il est inutile d'employer des arguments. Je dis, pourquoi tu pries? Parce que ça me fait vivre. Parce que sans ça, je ne peux pas vivre. Sans ça, je meurs. Ça, ils l'entendent. Ben, explique-moi. Et voilà, puis de fil en aiguille, après on parle. On est amené à parler de la vie, de ce qu'elle est, de la place de cette intériorité, de cette profondeur de l'homme, et on a mis lieu de quelques croyances. Ouais. Ça peut venir après. Mais d'abord, il y a ça. Sans ça, sans cette prière, sans ce contact intérieur, je ne vis plus. Donc en fait, prier en ce monde, maintenir en ce monde, maintenir dans notre société, gérer une vie contemplative, c'est un peu comme ce levain dans la pâte, hein, qui est aussi une image forte de l'Évangile. Pourquoi? Parce que le levain n'est pas la pâte, mais il est dans la pâte. Hein, donc, dans le monde, mais pas du monde. Mais il est quand même dans un contact permanent avec elle. Donc on ne se retire pas. Se retire pas du monde. Vous voyez, c'est toujours cette tension dont je vous parlais au début, donc, et savoir l'accepter. Donc c'est ce levain qui est d'une autre nature, certes, mais toujours solidaire de la pâte, de l'épaisseur, de la pesanteur de cette pâte dans laquelle il est glissé pour la faire lever. À nous aussi d'accepter cette condition de levain, qui est justement le secret, être enfoui, caché et seul, souvent. Donc la difficulté, elle ne tient pas à la nature de la pâte, mais plutôt au risque pour le levain de s'endormir, de se relâcher et de perdre petit à petit ce principe vivant de transformation. Le propre du levain, c'est ça, c'est qu'il est capable par lui-même de transformer. Donc, en langage clair, c'est maintenir notre exigence envers et contre tout. Et à chaque fois savoir maintenir ce noyau, c'est-à-dire ce qui vous fait vivre. Ça, on ne lâche rien là-dessus. Parce que si vous lâchez là-dessus, il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est ça, il faut savoir. Moi, souvent je dis, c'est il y a sur quoi on repose. Sur quoi on s'appuie? Je reviens là. Qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est une question qui devrait sans arrêt nous revenir. Et ça, je reprends appui dessus. Et là-dessus, on ne peut rien lâcher. On peut lâcher sur plein de choses, sur des convictions, sur des trucs. Mais oui, d'accord. Mais là-dessus, on ne peut pas lâcher parce que c'est tout l'édifice qui va commencer à vaciller. C'est exactement ce que nous dit l'Évangile avec le sel. Si le sel vient à s'affadir, avec quoi va-t-on lui redonner du goût? Et l'Évangile ajoute même, si le sel vient à s'affadir, on le piétine. Et c'est un peu ce qui arrive au christianisme. Justement, quand il n'est plus qu'une bonne conscience, une religion domestique, ou un catalogue de préceptes sans âme, sans esprit. Et je crois que nos contemporains, qui ont un sens critique très développé, et je crois aussi un goût très sûr, parfois, des choses spirituelles, eh bien, ils le piétinent. Parce qu'il n'a plus de saveur, tout simplement. Et une des raisons de ce qu'on appelle un peu facilement aujourd'hui l'athéisme des temps modernes, je ne crois pas que ce soit, comme on veut bien le dire, la mort de Dieu, ni même son refus, mais plutôt l'interminable agonie d'un Dieu fardé à outrance, le rejet d'une religion pauvre spirituellement. Et nous en sommes d'ailleurs tous responsables. On est chacun responsable de ce qu'on porte, du témoignage qu'on donne par ce qu'on vit. Une religion qui devient insipide et qui ne nourrit plus, en tout cas, la quête de sens qui émerge aujourd'hui, exacerbée par des cultures différentes, donc des exigences autres, et qui réclame surtout des nourritures solides. On ne peut plus aujourd'hui, se contenter de donner à manger aux gens un petit bout de catéchisme. Voilà, il y a plus intellectuellement, culturellement, il y a plus d'exigences, et puis surtout, intérieurement. Il faut quelque chose qui tienne au corps, quelque chose qui fasse vivre, comme je vous disais. Voilà, les gens, ils attendent ça. Ils veulent quelque chose qui les fasse vivre. Voilà, c'est ça. Et donc à nous aussi de témoigner de cette capacité, je dirais, à donner à notre foi, cette force cette force de vie. Donc, pour revenir un peu à notre question du début, donc la vie d'aujourd'hui n'est donc pas la difficulté parfois insurmontable que nous rencontrons dans notre cheminement. La difficulté, en réalité, elle tient à la véritable hauteur de notre exigence et par suite de notre vigilance. Je crois que c'est un mot qu'il faut retenir, hein, exigence. Tout à l'heure, quelqu'un me parlait, mais vous avez, en parlant de ma vie, vous avez quand même une discipline. Je dis non, j'ai une exigence. C'est pas pareil, vous l'entendez? Une discipline, ça peut être très extérieur, et puis on, à coup de volontarisme, on y arrive. Une exigence, c'est nécessairement intérieur. C'est une forme, c'est aussi un axe. Souvent, je le dis, il ne faut pas avoir de cadre. Il faut avoir un axe. C'est pas pareil. J'ai un axe, c'est l'intérieur. C'est un peu comme notre colonne. Notre colonne vertébrale, elle nous tient debout, mais elle est dedans, la colonne vertébrale. Les cadres, ça sera toujours extérieur. Ça sera des béquilles, ça sera, on va s'appuyer, etc. Voilà. Et l'exigence, c'est ça. C'est une orientation, c'est à la fois un appui sur lequel on peut s'appuyer fort, mais en même temps une orientation. Et du coup, votre vie, elle va quelque part. Et contre ça, il n'y a pas de cadre qui tienne. Voilà, donc on va retenir un peu ce terme d'exigence. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une question de vigueur, comme je vous ai parlé de vie. C'est une question aussi de vigueur, une sorte de dynamisme. Il y a un dynamisme intérieur. Une spiritualité, c'est une dynamique. Si elle ne crée pas cette dynamique intérieure, il faut peut-être se poser des questions. On peut par exemple se demander si, voilà, est-ce que ma spiritualité n'est pas devenue la cerise sur le gâteau, un petit plus savoureux, mais la petite chose qui vient en plus. Ou alors tout simplement une routine, voilà, qui m'installe dans une forme de paresse et puis finalement une nouvelle forme d'embourgeoisement. On en quitte un pour en retrouver un autre. Chaque fois qu'on s'habitue, on s'embourgeoise. Hein. Il faut on sait très bien qu'il y a toujours ce risque. En fait, la vraie vie spirituelle, c'est toujours être en route, hein, avec le sac sur le dos, et puis tous les jours remettre en question, puis tous les jours dire « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà, on remet, c'est chaque jour, et on recommence. Mais surtout, on ne s'installe pas dans des certitudes, c'est la fin de la vie spirituelle, les certitudes. Et en fait, c'est ça, cette vie spirituelle, c'est... On parle beaucoup de l'essentiel aujourd'hui, hein. Donc donner à l'essentiel la première place. Mais on est toujours, je pense que presque tout le monde est prêt à reconnaître ce qui est essentiel, mais pas nécessairement à y répondre. C'est ça, c'est d'y répondre, c'est est-ce que réellement, nous qui savons où est l'essentiel, est-ce que l'essentiel a une place essentielle dans notre vie? Est-ce que réellement, on lui donne la place qu'il mérite, c'est-à-dire la première, si c'est l'essentiel? Donnons-lui la première place. Soyons cohérents. Voilà. Et ça, quand on s'y arrête un peu, c'est pas toujours sûr, c'est pas toujours évident. On biaise un peu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si on reprend le langage de l'Évangile, ça veut dire que la vie est plus importante que le vêtement. Ça veut dire aussi que la croissance de cette vie que je reçois, de cette vie que je transmets, ça veut dire que sa croissance est plus importante que notre confort. Et là, vous voyez que parfois, je veux dire, on peut finalement donner plus de place au confort au détriment de la croissance. Parfois, notre vie va croître beaucoup plus dans l'inconfort. Et très souvent, c'est le cas d'ailleurs. Elle a besoin d'un confort, parfois, pour grandir, pour croître. Voilà, donc ça, on remet un peu les choses, on remet un peu les pendules à l'heure. On peut dire aussi, autrement, on peut dire aussi que la circulation de la vie est plus importante que sa conservation. C'est ce que la croix nous enseigne. Allons aussi jusqu'au bout. Alors c'est vrai que j'entends souvent dans les demandes d'aide qu'on m'adresse qu'il est très difficile aujourd'hui de concilier la prière par le temps, la disponibilité qu'elle demande avec la vie moderne qui est réellement plus trépidante, plus chronophage que par le passé. Mais là, je crois qu'encore une fois, on se donne bonne conscience. Parce que je renvoie aussitôt les chercheurs de Dieu à eux-mêmes. Et je fais comme Rilke. Rilke est un poète allemand qui répond à un jeune poète qui lui confie justement ses difficultés en se plaignant de la pauvreté de son existence. Et Rilke lui répond dans une très belle lettre, « Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de n'être pas assez poète pour appeler à vous ses richesses. Pour le Créateur, rien n'est pauvre, il n'est pas de lieu pauvre, indifférent. » Et je crois qu'on pourrait dire exactement la même chose de l'homme de prière, du méditant chrétien. Le contemplatif, lui, ne se plaint jamais. Il ne cesse de tirer des trésors de son cœur, dont son regard est plein. Et parce qu'il sait que ces trésors ne peuvent venir que de son cœur, eh bien, il le cultive, il en prend soin. C'est donc plutôt notre vie qu'il faut adapter à la prière, et non pas l'inverse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des choix. Ça veut dire établir des priorités, et cela de manière assez concrète. Par exemple, ça peut être travailler un peu moins pour dégager du temps, et en acceptant par là même de vivre plus sobrement, voire plus chichement. C'est on a, comme on dit vulgairement, on n'a rien sans rien. Il y a parfois des choix à faire qui concrètement ont du sens et font beaucoup avancer les choses. Alors après, c'est chacun, c'est en conscience, c'est chacun selon la place aussi qu'il veut donner à cet essentiel. Mais je crois qu'à la longue, notre existence elle-même s'en trouvera mieux, parce qu'elle y gagne en cohérence. Très souvent, les trois quarts de nos problèmes viennent de ce décalage entre des aspirations profondes et puis des faux besoins. Et donc les deux sont un peu en lutte. Donc comment gagner en cohérence ? Alors effectivement, en donnant plus de temps à la méditation pour la faire entrer dans notre vie quotidiennement, eh bien on va perdre en plaisir, on va perdre aussi en détente, on va peut-être même perdre en vie sociale, en vie culturelle. Parce que voilà, au lieu d'aller au théâtre, aller au cinéma, ben non, j'ai mon temps. Voilà, mais ça, finalement, ce qu'on va perdre d'un côté, on va le gagner en profondeur. On va le gagner en largeur de vue. On va le gagner aussi dans une autre façon d'aborder les événements, la vie. Donc, vous voyez, tout ça va aussi s'équilibrer, même si au début, il peut y avoir des petites frustrations. Je dirais, à la longue, on va s'apercevoir qu'il y a une autre richesse qui se met en place. Et puis, les autres vont s'en apercevoir. On se dit, mais d'où ça vient, tout ça ? Hein, comme dans le soin, d'où lui vient cette sagesse ? Il ne va pas au cinéma ? Il ne va pas au théâtre ? Il va pas, il fait, mais d'où ça lui vient ? Voilà, c'est des questions qui interpellent beaucoup de gens. On se retrouve aussi dans l'Évangile. Mais d'où ça lui vient ? C'est le fils du charpentier, il n'a aucun savoir. En général, le savoir, ça vient de Jérusalem. Donc voilà, c'est là la question de cette sagesse, celle qui vient d'ailleurs, qui vient du plus profond de soi, qui vient d'une relation vivante avec le divin. Parce qu'il faut, je crois, le souligner, si la méditation est un puissant facteur d'unification, c'est bien par son assiduité même, je dirais même uniquement par cette assiduité. Ce n'est pas par des petits bouts comme ça. C'est par aussi la patience silencieuse qu'elle développe, qu'elle nous apprend aussi à vivre dans la paix. C'est aussi par cette vue à long terme qu'elle favorise, puisque là, on entre un peu, le temps ne compte plus, on n'est plus dans l'immédiateté. Donc on regarde aussi les événements du monde avec cette vue à long terme. Et puis surtout, elle instaure une forme de distance avec l'immédiateté des choses. On décolle, je dirais à force, en pratiquant ce retrait intérieur quotidien. On décolle de l'immédiateté des choses. On n'est pas obligé de répondre immédiatement. Il y a du temps. Vous voyez, donc ça devient aussi un espace de respiration. Parce qu'on colle. L'actualité aussi nous force. On colle à tout. Il faut être réactif immédiatement. Dans le boulot, c'est pareil. Il faut être réactif, il faut être... Bon, etc. L'actualité aussi, ça va très vite, tout va très vite. Mais justement, on a ce retrait, ce petit pas intérieur va nous permettre aussi de respirer et de prendre aussi la juste distance parce que les choses prennent leur place, leur juste place. Quand on est trop près, vous le savez, on ne voit plus la forêt. C'est bien connu. Mais intérieurement, c'est pareil. C'est pareil, on manque de distance intérieure. Donc cette prière, cette méditation qu'on va mettre au cœur de sa vie, qu'on va mettre quotidiennement au cœur de sa vie, qu'on va retrouver chaque jour. Bien, elle est en elle-même, en soi, un engagement. Et c'est peut-être le premier engagement, le plus important. Parce que c'est lui qui va déterminer tous les autres, qui va colorer tous les autres. C'est un engagement qui est à la fois l'expression et l'impression en nous toujours plus profonde d'un engagement à la suite du Christ. Pourquoi ? Parce qu'on se retire un moment pour mieux le connaître, pour mieux lui ressembler, pour nous familiariser en quelque sorte avec lui, pour établir avec lui une relation d'amitié. Donc comme je vous le disais aussi, c'est les temps de ces temps où on parle comme ça, moi je parle prière, méditation, prière contemplative, peu importe, mais je ne m'attache pas aux pratiques. C'est pas parce que ce n'est pas la pratique en soi, c'est le degré de profondeur qui compte. Que vous pratiquiez la méditation telle que vous le faites, ou l'oraison, ou la lectio, ce qui fait que vous êtes vraiment sur le bon chemin, c'est le degré de profondeur. Parce que tout peut être... La pratique en elle-même, elle peut être finalement, je veux dire, très superficielle. Hein. Vous pouvez, surtout là, quand c'est très cadré, cela dit, l'oraison, c'est pareil. Hein. Vous avez une oraison, l'oraison ignatienne, pof, tout est compartimenté, vous avez la montre, 10 minutes ceci, 10 minutes cela, et puis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous, pareil aussi, vous pouvez faire la même chose. C'est le degré de profondeur. Donc, il est important, quelle que soit la pratique, je dirais même, pour qu'une pratique porte vraiment ses fruits, il est important de travailler cette caisse de résonance que vous êtes. Cette caisse de résonance intérieure, c'est un peu comme un instrument. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un son? C'est la caisse, un violon, voilà. Il faut que vous soyez un Stradivarius. Mais ça, c'est cette caisse, c'est que vous allez travailler, cette intériorité, ce silence intérieur qui va faire que la pratique va pouvoir donner tous ses fruits. Mais en elle-même, seule, elle ne peut pas. Et dans ce cheminement, qui est, je le conçois, qui n'est pas simple, parce que c'est justement dans la durée, c'est ce jour après jour, c'est le quotidien, c'est sur des années, puis parfois on ne voit pas toujours les résultats. Je crois que le premier critère de discernement, c'est le goût. C'est le goût qui se manifeste en nous. Et malgré, je dirais même à travers et grâce aux difficultés. C'est ce goût, quand on va à la méditation, parce qu'on a envie, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'on sait qu'on a... Même si aujourd'hui, je n'ai pas envie, mais je sais que j'y ai goûté, je sais que j'y puise quelque chose. Donc voilà, il y a toujours ce goût. Il faut que ce goût vous reste pour pouvoir y retourner. Et ce ne sont pas les difficultés qui doivent décider en dernier ressort. Des difficultés, il y en a toujours, et il y en a pour tout. Ce qui compte, c'est le goût. Tant qu'il y a le goût, on y va, quelles que soient les difficultés rencontrées. Et quelles que soient aussi les résistances. Ce qui compte, c'est l'insistance. C'est ce qui, en vous, insiste. Vas-y, ne lâche pas, etc. Enfin, c'est ça qui compte. Après, les résistances, il y en aura toujours, plus ou moins, mais elles vont s'estomper. Mais c'est toujours donner cette prédominance au goût, à l'insistance, à ce qui... Et on revient à ce que je vous ai dit, ça me fait vivre. Sans ça, je crève. On peut essayer, par exemple, vous supprimez, vous jeûnez de ça. Vous voyez, au bout d'un ou deux mois, moi, je connais quelqu'un, c'est comme ce qu'elle m'a dit, ah, j'y suis revenu, j'ai dit, je tout loupé. J'ai lâché, et puis au bout de deux, trois mois, elle a compris que... Enfin, tout loupé, mais elle a compris pourquoi. Elle dit, bah oui, c'est normal. Rien ne peut marcher. J'ai perdu ma respiration, j'ai perdu mon appui. Voilà, ça n'était pas rendu compte tout de suite. Puis elle est revenue. Elle est revenue à cette pratique quotidienne. Voilà, c'est vrai que malheureusement, la vie chrétienne, parfois, ne consiste qu'à endosser des modèles, et parfois jusque dans la spiritualité, où on se contente simplement d'imiter au détriment de cette singularité. À toujours revenir, c'est ce que je vis, ce que j'expérimente dans ça, et puis c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Parce que cette prière du cœur profond, cette prière intérieure, nous libère en ce sens qu'elle vient nous chercher toujours au-delà des comportements. Elle vient nous chercher justement à la racine du désir et donc à la racine de l'être. Là où il y a du désir, il y a de l'être. Donc c'est là toujours qu'il faut revenir. faut toujours se méfier de tout ce qui est trop comportemental. On rentre, mais l'être n'est plus sollicité. Donc là, effectivement, on peut tranquillement se couler dans un modèle, dans un moule. Et donc on peut quitter, on peut, même dans ces nouvelles pratiques, je veux dire, on peut retrouver les mêmes travers que dans la dévotion. Côté un peu mécanique. Voilà. Donc toujours revenir à cette racine du désir, c'est-à-dire, autrement dit, ce qui nous fait vivre. Donc il ne s'agit pas tant d'apprendre à prier avec toutes les méthodes que l'on propose aujourd'hui, que d'entrer dans une vie de prière, une vie de méditation, une vie contemplative, avec ses hauts, ses bas, ses expérimentations, ses aussi ses rectifications. Donc finalement, je veux dire, avec le temps qui est notre seul allié. Et c'est dans cette durée qu'on retrouvera la stabilité dont nous avons tant besoin dans une vie spirituelle. Parce que la stabilité, ce n'est pas toujours faire la même chose. Ce n'est pas tranquillement vivre, on a une sorte de routine. La stabilité, c'est justement de toujours revenir à notre centre de gravité. Mais ça peut bouger, parce qu'on est des vivants aussi. Donc il y a du mouvement, il y a de la vie. Mais on a un centre de gravité, donc on revient toujours. C'est un peu comme la quille du bateau. Je veux dire, ça peut aller à droite, à gauche, mais ça revient. C'est ça la stabilité. Stabilité, c'est pas l'autoroute ou le rail. Là. Comme ça, je suis dessus, je regarde ni à droite ni à gauche, je vais tout droit, je fais toujours les mêmes choses. Non, c'est beaucoup plus subtil et puis surtout beaucoup plus enraciné dans le vivant. Donc en fait, pour pas trop prolonger, je vais peut-être terminer aussi sur cette notion que j'avais évoquée au début d'abandon. Parce qu'au début, je parlais comme d'effort, mais après, une fois qu'on est dans ce temps de prière, de méditation, c'est quand même l'abandon qui prime. Et je crois que vous le savez parce que tous les courants spirituels, là, il y a une sorte d'universalité. Tous les courants spirituels sont, en tout cas, se rejoignent, sont d'accord ou se rejoignent sur ce point sensible de l'abandon, du dessaisissement, qui finalement est plus important que toutes les pratiques et qui pourrait même devenir la pratique essentielle. Mais pour notre impatience, pour notre désir de résultats, c'est vrai que l'abandon reste toujours un problème parce que, précisément, il n'est jamais immédiat, mais il relève d'un réel apprentissage. Parce que l'abandon, c'est une habitude, c'est une attitude intérieure, c'est une autre façon d'être. On ne s'abandonne pas en passant, une fois de temps en temps, selon les humeurs, les sentiments du moment. Et ni en mots, ni en formules. Parfois, vous avez des formules très jolies, très belles, formules d'abandon, de consécration, mais ça peut là aussi rester très, très extérieur, très, très superficiel. C'est en acte qu'on s'abandonne. Et c'est un acte intérieur, un acte qu'on peut expérimenter justement dans cette prière silencieuse d'intériorité. C'est un acte qui n'a pas besoin de mots, qui n'a pas besoin de s'exprimer, mais quand quelque chose s'ouvre en soi, quand quelque chose lâche en soi, on en fait l'expérience. Donc c'est dans un mouvement de l'âme que l'on cherchera à travailler toujours plus en profondeur. C'est un acte patient, répété, un acte intérieur qui est de toujours consacrer son cœur à la grâce. La grâce qui, elle est toujours agissante, elle est toujours là. C'est nous qui ne sommes pas là. C'est nous qui ne sommes pas suffisamment ouverts, justement pas suffisamment abandonnés pour la laisser entrer et faire son travail. Donc l'abandon, c'est aussi, en quelque sorte, notre patience. Patience aussi à l'égard de nous-mêmes, comme à l'égard de Dieu, qui lui aussi patiente avec nous. Donc il y a aussi un temps de la vie, c'est la lenteur. Tout ce qui est de l'ordre du vivant avance en général avec lenteur, c'est le temps des maturations. Donc tout engagement dans un travail intérieur nécessite aussi pour nous d'entrer dans cette lenteur du vivant, dans cette absence aussi d'attente de résultats. En tout cas, quels que soient les résultats, soyons fidèles à ce temps qu'on a l'habitude de se donner. Soyons fidèles non pas au sens volontariste, au sens du devoir, mais toujours pareil, au sens de la vie. Et je crois que je voudrais terminer aussi sur ces mots. Je vous en ai beaucoup parlé parce que je crois que pour nous, c'est important, parce que c'est la preuve que justement que la foi n'est pas à côté de la vie, comme souvent des contemporains nous le renvoient. Effectivement, si la foi, la croyance, oui, la croyance peut être à côté de la vie. Je peux croire en Dieu et puis sans qu'il y ait aucune incidence dans ma vie. Voilà. Mais à partir du moment où l'intériorité est sollicitée, là, vous avez affaire à du vivant. Donc, c'est la vie qui est en jeu, c'est la vie qui commence à grandir, c'est la vie aussi qui va vous donner aussi qui va réclamer son dû, parce que c'est elle aussi qui en vous demande ce temps, parce qu'elle a besoin. Elle a besoin de cet espace intérieur, elle a besoin de ses respirations, elle a besoin de cette profondeur. Parce que la vie, c'est le premier grand mystère. Et justement, si notre espace intérieur se rétrécit, ben elle étouffe. Elle étouffe et puis elle peut mourir petit à petit, peu à peu. Donc voilà, je vais pas vous retarder plus pour cette première soirée. Je vois qu'il est... J'ai une horloge en face, hein, donc je surveille. Je crois que ça suffit. Vous avez droit aussi à un peu de repos, donc de vous abandonner. Et puis je pense que ces mots feront leur chemin aussi dans le silence, dans le grand silence de la nuit. Et puis on se retrouvera demain. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Simplement, avant que vous partiez, nous avons eu une petite annonce à faire. Il y a quelqu'un parmi vous qui a oublié d'éteindre ses phares de voiture. Donc voilà, c'est une Clio, immatriculée BP675MG. Une Clio immatriculée BP675MG. Voilà, merci.
Je voudrais juste faire une petite annonce pour la librairie. Vous avez vu que le programme est très chargé, très serré. Donc on n'aura pas beaucoup de temps d'ouverture de librairie. Donc je voulais vous signaler...